Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en 2022 chez Odile Jacob, La troisième voie du vivant est un essai de biologie et de réflexion écologique signé par Olivier Amand, chercheur à INRA et spécialiste des mécanismes du développement des plantes. Le livre examine la crise environnementale sous un angle précis, la recherche systématique de performance, entendue comme amélioration de efficacité et de efficience, contribuerait autant au déséquilibre contemporain qu'elle prétend résoudre. Amand ne propose pas de copier naïvement la nature, il mobilise plutôt certains enseignements des sciences du vivant pour remettre en cause une conception sociale d'optimisation fondée sur la vitesse, la réduction des marges et le contrôle. Sa thèse centrale est que le vivant persiste dans des environnements instables grâce à des processus localement peu performants, lenteur, redondance, erreur et variation. Cette sous-optimalité produit de la robustesse. L'essai articule ainsi diagnostic de l'anthropocène, vulgarisation biologique et recherche de principes politiques capables de soutenir des sociétés plus adaptables. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la performance comme grille de lecture contestée de l'anthropocène. Amand situe son propos dans une critique de optimisation devenue norme générale dans les organisations agriculture, urbanisme, économie ou technique numérique. Optimiser consiste souvent à atteindre un résultat avec moins de temps, de matière, de travail ou de capital. Cette logique paraît rationnelle lorsqu'elle est appliquée à une tâche délimitée. Le livre interroge cependant ses effets à grande échelle et sur la durée. Un système réglé pour éliminer toute marge peut devenir dépendant de conditions stables, de flux continus et de ressources immédiatement disponibles. Il gagne en rendement mesurable, mais perd en capacité de réponse lorsque les conditions changent. Cette distinction permet à Amand de déplacer la question écologique. Il ne suffit pas de rendre une activité existante un peu moins coûteuse ou plus efficace si son fonctionnement demeure fondé sur une extraction continue et sur le rejet de dommages vers les milieux. Dans cette perspective, les réponses de type croissance verte ou développement durable risquent de prolonger le problème quand elles conservent la performance comme finalité principale. Le propos ne condamne donc pas toute efficacité ponctuelle. Il critique une extension idéologique de la performance. Lorsque celle-ci devient le critère unique pour organiser les relations entre humains, techniques et écosystèmes, le livre cherche ainsi un autre critère de jugement, la capacité collective à durer malgré les aléas. Deuxièmement, la sous-optimalité transformait les fragilités en capacité d'adaptation. Le concept de sous-optimalité constitue le noyau théorique de l'ouvrage. Il ne désigne ni le gaspillage, ni une apologie de l'inefficacité, ni un renoncement à agir. Il décrit plutôt une propriété observée dans le vivant. Des mécanismes imparfaits à échelle locale peuvent soutenir la persistance et évolution de ensembles biologiques à échelle longue. Une variation, une lenteur ou une redondance peut sembler coûteuse si on la juge seulement par le rendement immédiat. Elle peut pourtant fournir des alternatives lorsque l'environnement se modifie ou lorsqu'une partie du système défaille. Amand oppose ainsi une optimisation qui tend à contourner les faiblesses à une sous-optimalité qui les intègre comme ressources potentielles de adaptation. Cette idée suppose un changement échelle, ce qui importe n'est pas la performance maximale de chaque individu ou de chaque unité, mais la viabilité du collectif dans le temps. La thèse évite donc une opposition simpliste entre ordre et désordre. La robustesse ne provient pas de l'absence de contraintes, mais de la présence de marges, de diversité et de mécanismes capables d'amortir les perturbations. Appliquée au débat écologique, cette approche conduit à valoriser les réserves, les solutions multiples et les rythmes compatibles avec la régénération. Elle met surtout en garde contre les dispositifs trop spécialisés, dont les succès initiaux peuvent masquer une vulnérabilité structurelle. Troisièmement, circularité et collectif, deux principes rendus opérants par la robustesse. Le livre organise son inspiration du vivant autour de trois principes liés. Le premier est la circularité dans les écosystèmes. Les produits issus de certaines activités deviennent des ressources pour autres organismes. Cette dynamique ne signifie pas que la nature ne produit aucun déchet, mais qu'elle limite la formation de matières durablement inutilisables pour le reste du vivant. Elle invite à examiner les cycles matériels et énergétiques des sociétés humaines. Le deuxième principe est le caractère collectif du vivant. La survie des populations ne se réduit pas à addition de performances individuelles. Elle dépend de coopération, interdépendance et limitations réciproques. Certains compromis, qui paraissent défavorables à une unité isolée, peuvent préserver le groupe. Amand insiste toutefois sur un troisième principe, la robustesse, car elle rend les deux premiers réellement praticables face aux fluctuations. Une circularité sans marge peut rester fragile. Une coopération sans capacité de tolérer les différences et les échecs peut se réduire à une injonction abstraite. La robustesse désigne le maintien relatif de la stabilité malgré les perturbations, non la conservation rigide de l'état initial. Cette articulation distingue le livre de discours écologique limité au recyclage ou à la coopération. Les boucles de matière et les formes de cohabitation doivent être conçues pour supporter les incertitudes, les retards et les déséquilibres temporaires. Le vivant sert ici de cadre pour penser des relations plutôt que de catalogue de solutions toutes faites. Quatrièmement, les erreurs, lenteur et redondance comme mécanisme biologique de stabilité. Une contribution distinctive de l'ouvrage consiste à réhabiliter des phénomènes ordinairement décrits comme des défauts. Les sciences du vivant montrent que les organismes et les populations ne fonctionnent pas comme des machines intégralement réglées pour un résultat maximal. Les erreurs, les incohérences, les délais et les répétitions font partie de systèmes soumis à la variabilité des milieux. Amant les interprète comme des composantes possibles de la robustesse. Dès lors qu'elles évitent une dépendance totale à une seule trajectoire de fonctionnement, la redondance, par exemple, peut paraître superflue dans une logique de compression des coûts. Elle offre néanmoins une continuité lorsqu'un élément manque ou échoue. La lenteur peut réduire la réactivité immédiate, mais elle peut aussi empêcher des emballements et laisser place à des ajustements. De même, la variation fournit un matériau pour adaptation collective plutôt qu'une anomalie à supprimer systématiquement. Le raisonnement ne permet pas de conclure que toute lenteur est bonne ou que toute duplication est utile. Son intérêt est méthodologique, il faut évaluer un dispositif selon ses effets dans le temps, ses interactions et son exposition au choc, non selon son seul rendement instantané. Cette prudence protège aussi contre une lecture décorative de la biologie. Le livre ne fournit pas une recette naturelle applicable directement aux institutions. Il propose un vocabulaire pour identifier les coûts cachés de la quête de fluidité et de contrôle total. En dernier lieu, du modèle biologique au contre-modèle politique promesse et risque de récupération. Dans sa dernière orientation, le livre étend la réflexion biologique vers un contre-modèle politique et social. La troisième voie ne correspond ni au maintien des pratiques ordinaires, ni à une adaptation technicienne qui chercherait seulement à conserver les mêmes objectifs de croissance et de contrôle. Elle vise la construction de conditions adaptables, capable de traverser un avenir marqué par des fluctuations écologiques matérielles et sociales. Cette ambition donne au concept de robustesse une portée concrète, préserver des marges de manœuvre, diversifier les réponses, soutenir les interdépendances et accepter que la stabilité durable ne se confonde pas avec une accélération permanente. Toutefois, cette transposition soulève une difficulté que certaines lectures critiques du livre mettent en évidence. La robustesse pourrait être réduite à un simple supplément de gestion, ajouté à un système dont les finalités extractives resteraient intactes. Une organisation peut en effet devenir plus résistante aux crises, sans devenir plus juste, plus sobre ou plus compatible avec les cycles du vivant. Le livre est particulièrement utile lorsque cette tension reste visible. La sous-optimalité ne doit pas servir à consolider la poursuite de flux destructeurs sous une forme mieux administrée. Elle exige de discuter les objectifs du système, les échelles de décision et la répartition des coûts. Le mérite de l'essai est donc moins de livrer un programme institutionnel fermé que de poser une question exigeante. Quelles imperfections faut-il préserver pour permettre une véritable habitabilité commune ? En conclusion, la troisième voie du vivant s'adresse aux lecteurs intéressés par écologie. Les limites de la croissance, la biologie contemporaine et les transformations des institutions. Il sera particulièrement utile aux personnes qui souhaitent dépasser opposition entre effondrement annoncé et solution technologique totale. Son apport pratique réside dans une modification des critères de décision au lieu de ne mesurer que le rendement, la rapidité ou la réduction des coûts. Il invite à considérer les marges, la diversité des options, la capacité de réparation et la résistance aux perturbations. Son apport intellectuel est de donner une base biologique à une critique d'optimisation, sans faire du vivant un modèle moral simpliste. Par rapport à de nombreux essais écologiques centrés sur les limites planétaires, les comportements individuels ou les innovations vertes, le livre se distingue par sa notion structurante de sous-optimalité. Amand montre que les défauts apparents peuvent avoir une fonction systémique et que la performance locale peut compromettre la viabilité globale. Cette perspective apporte un langage utile pour évaluer les promesses de efficacité écologique avec davantage de rigueur. Le lecteur doit néanmoins conserver une attention critique lors du passage de la biologie à la politique. Une société robuste ne se définit pas seulement par sa capacité à absorber les crises, mais aussi par les fins qu'elle poursuit. Cette réserve fait partie de l'intérêt du livre. Il ouvre un cadre de discussion fécond sur les conditions matérielles et collectives de adaptation. Plutôt que de proposer une solution universelle prête à emploi, si vous souhaitez soutenir Olivier Amand, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.